Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous, deuxième jour de compétition et grosse déception pour Perrine Lafont qui échoue au pied du podium comme Ben Cavé samedi. Une désillusion que l'on va analyser avec notre consultante Ophélie David ainsi que le journaliste Laurent Vergne et Maxime Dupuis. Salut à tous.
Salut.
Et dans l'heure olympique aujourd'hui, nous parlerons également de ski alpin avec Valentin Giromoine, l'ancien descendeur qui est notre consultante sur ces jeux. La descente repoussée à lundi à cause du vent, vous saurez tout sur ce report et comment les skieurs patientent. Enfin, Tessa Worley sera au programme de notre troisième partie, la skieuse du Grand Bornand qui dispute le géant dans la nuit de dimanche à lundi. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Acast, Spotify, Apple Podcast, Deezer et les meilleurs extraits en vidéo sur eurosport.fr. L'heure olympique, c'est parti. Perrine Lafont échoue donc au pied du podium. L'ariéchoise termine à la quatrième place. Une grosse déception pour elle. On attendait l'or, le doublé olympique, 4 ans après sa médaille à Pyeongchang. Ophélie David est là pour en discuter avec nous, notre consultante. On t'a suivi, évidemment, commenté les différents runs de Perrine. On est un peu déçu et en même temps, on a l'impression que elle n'a pas su exprimer tout son potentiel en finale.
Alors forcément, bien sûr, on est déçu et on est d'autant plus triste que dans l'interview d'après, on voit que elle est très, très déçue et que c'est une fille tellement charmante, tellement nature, tellement spontanée que ça nous fait mal au cœur pour elle. Ensuite, elle le dit elle-même, hein, elle a tout donné. Petit à petit, hein, ses runs étaient moins bien notés, donc je pense qu'elle était fatiguée, fond de cale, tu vois. Mais c'est le sport, enfin, tu vois, des fois c'est facile de dire tiens, ce serait chouette de regagner l'or olympique, bien sûr que ce serait chouette, mais punaise, c'est pas facile. Et puis là, on a vu que le niveau était incroyablement élevé chez les femmes, notamment grâce à Perrine, hein, que toutes ces jeunes ont eu en ligne de mire pendant des années. Et aujourd'hui, ça ne fait pas, elle passe à côté. Effectivement, elle donne tout ce qu'elle a aujourd'hui, mais on sait qu'elle a plus en temps normal. Elle a des scores normalement qui sont bien plus élevés que sa note finale. Donc, bien sûr, on est triste. Est-ce qu'on peut avoir des regrets ? Non, parce qu'elle a tout donné.
On a l'impression, même elle le dit elle-même, hein, qu'elle a eu du mal à se trouver sur cette piste. Ça veut dire que c'est un manque de repères, c'est la tête qui a eu du mal à suivre, la tension finalement, parce que tout le monde lui parlait que de se doubler. Ça peut avoir joué tout ça.
Alors, je pense que le doublé, c'était de toute manière son rêve. C'est elle qui s'était fixé cet objectif-là. Après, c'est vrai que Perrine, elle est jeune, quoi. Elle a 23 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est tout petit.
Et c'est déjà ses troisièmes Jeux Olympiques. Hein.
C'est déjà 23 ans. Troisièmes Jeux Olympiques. Mais là, elle portait l'attente de tellement de monde. Même si elle est en Chine, un peu de l'autre côté du monde, et qu'elle a certainement déconnecté ces derniers jours, je crois que c'était quand même vraiment quelque chose de costaud à avoir sur le dos. Et moi, je trouve qu'elle s'en est malgré tout bien tirée, honnêtement. Après, c'est nul parce que franchement, elle aurait dû être sur le podium. Déjà, ça aurait été une très, très belle perf. Et elle le manque de rien, hein, de 0,3 points. C'est que dalle. Hein. Donc, c'est le sport. Hein. Si tout était inscrit à l'avance, on ne regarderait pas avec enthousiasme devant nos écrans.
S'il y a un regret, il est là, dans le fait que même sans avoir réussi à s'exprimer comme elle aurait aimé le faire et comme elle sait le faire, elle est vraiment tout près. Quand on est au pied du podium, là, on y est vraiment. 0,36 0,36. Donc, c'est rien du tout. L'autre regret, c'est que le score de son premier run était plutôt très bon. Il était juste en dessous des 80. Donc, c'était plutôt prometteur parce qu'on l'avait vu hier chez les garçons. Les notes avaient tendance à monter au fil des runs. Ça a moins été le cas aujourd'hui, et pas que pour Perrine Lafond, hein, puisque même la médaille de bronze est à un niveau de score plus bas que la troisième place du deuxième run, par exemple, ou même que du premier run. Donc, le regret, il est là. Après, on en avait parlé hier en présentant cette finale. Il y avait 4, 5 filles qui étaient pratiquement au même niveau. Voilà. Donc effectivement, encore une fois, quand on regarde les 4 dernières années, on pouvait se dire ah, Perrine Lafond, elle est archi favorite, championne olympique, championne du monde, lauréate de la Coupe du Monde. Oui, sauf que ce n'était pas forcément la réalité de cette saison. La réalité de cette saison, c'est que Perrine Lafond est toujours dans le top 3, 4, 5. Et le problème, c'est toujours le même aux Jeux Olympiques, c'est que bah, si vous n'êtes pas dans les trois premiers, entre guillemets, vous n'existez pas, en tout cas en termes de résultats. Alors que si sur une manche de Coupe du Monde, elle fait quatrième à 0,36 du podium, on ne va pas dire que c'est une catastrophe. Donc forcément, c'est très décevant, mais je pense qu'elle pouvait... Elle pouvait être sur le podium comme elle pouvait être au pied. C'est tombé du mauvais côté. Moi, je ne sais pas si c'était dans la tête ou dans les jambes, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a eu du mal à s'exprimer complètement. Et si moi, j'ai juste une petite surprise par rapport à ça, encore une fois, c'est par rapport au premier run qu'elle a fait aujourd'hui. Et après ce premier run, moi, je me suis dit, ça sent quand même très bon pour le podium. Parce que si elle est capable, ne serait-ce que de reproduire ça, alors l'or, ce sera, on a senti que ça pouvait être très compliqué, mais le podium, ça sentait quand même bon. Et malheureusement, derrière, ça a été plus dur pour elle.
Plus dur, et il n'y a pas eu de débat comme hier avec Ben Cavé. C'est-à-dire que les trois qui l'ont devancé ont fait des meilleurs runs, si on est de manière objective. Il n'y a pas eu de vol ou quoi que ce soit. Les trois étaient au-dessus, ont réussi à plus se lâcher. Et finalement, on devançait assez largement Perrine, sauf la troisième qui est à 0,36. Mais même impression visuellement, c'était qu'elle était devant.
Oui, il n'y a pas de sentiment d'injustice comme on a pu vraiment le vivre hier pour Benjamin. C'est vrai qu'on a l'habitude quand même d'une Perrine pétillante. Et là, elle était presque... On sentait qu'elle donnait tout, mais elle était en... comme si ses couleurs étaient un peu plus ternes. Je ne sais pas si ça vous parle. Et je pense qu'elle est déçue et elle était très triste de ne pas avoir réussi justement à complètement faire rejaillir tout ce qu'elle avait au fond d'elle. Mais c'est les courses d'un jour et tu as complètement raison, Laurent. C'est-à-dire qu'elle fait ça en Coupe du Monde. On dit, ouais, bah alors, sans produire son meilleur ski, elle est à rien du podium, c'est rassurant, voilà. On aurait dit ça.
Et on l'a vu d'ailleurs à sa réaction avec Gerline Weber, fataliste, triste, elle s'était même assez émue, voilà. Et ça nous a rappelé aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait hier, sur le fait que, ben voilà, elle a tout gagné, mais rien n'est jamais acquis, et c'est exceptionnel d'en arriver là, et surtout qu'elle est très jeune, ouais, tout simplement, 23 ans, comme tu disais tout à l'heure, C'est rien, voilà, elle a l'avenir devant elle. Et j'ai bien aimé sa réaction, on va dire. Il y avait empreinte d'émotion, mais également d'une certaine lucidité. Voilà, c'était pas aujourd'hui, mais il y a encore l'avenir devant elle. Et puis, il faut espérer des lendemains qui chantent. Il y en aura assurément.
C'est terrible, les gens, les immenses champions comme ça qui banalisent la victoire. Ouais. C'est terrible pour eux, presque, j'ai envie de dire, parce que... C'est Claude Onesta, quand il était encore sélectionneur de l'équipe de France, qui disait que la victoire est anormale au très haut niveau comme ça. Et quand il parlait des handballeurs, qui avaient quasiment tout gagné pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils n'étaient pas bons, ils étaient en finale. Et sinon, ils gagnaient. Et ils ont donné l'impression que c'était normal qu'on gagne. Il dit, au très très haut niveau comme ça, la victoire est anormale. Et pour Perrine Lafond, c'est un petit peu pareil. Ce n'est pas normal, entre guillemets, de tout le temps gagner dans tous les grands rendez-vous. Donc, quand elle va faire quatrième comme ça d'une compétition, on a l'impression que c'est un échec total et qu'elle est passée complètement à côté. Non, c'est ça marche pas comme ça. Et le ski de boss français aujourd'hui, il est forcément très déçu parce qu'il a pas de médaille, alors qu'il avait deux compétiteurs de très haut niveau. Quand vous êtes dans le top 4 mondial, vous êtes au très, très, très haut niveau. Mais malheureusement, voilà, encore une fois, ce sont les Jeux Olympiques et on le sait, et ils le savent beaucoup mieux que nous. Il faut être dans les trois, sinon, sinon c'est raté.
Pas tomber du bon côté pour cette fois-ci. On espère que les prochains jours seront plus cléments pour les Bleus, notamment en ski alpin. On va aller rejoindre notre consultant Valentin Giromoine pour parler notamment de la descente, messieurs. L'entraînement annulé samedi, la descente repoussée et puis annulée dimanche. Les débuts du ski alpin sont chaotiques à Yangqing, comme on dit. Du coup, la descente est prévue désormais lundi à 12h. Pour évoquer tout ça, nous accueillons Valentin Giromoine. Valentin, toi qui as pu avoir des échos un petit peu de ce qui se passe sur place, comment est-ce que tu vois les choses se passer ? Ça a l'air compliqué, chaotique, comme je le disais.
C'est très compliqué. On le savait, c'était annoncé avant les Jeux que ce serait une piste très ventée et très compliquée à garder avec des conditions régulières. Donc, les coureurs y étaient préparés. Malheureusement, il y a eu cette décision hier qui a fait beaucoup polémique d'arrêter l'entraînement et qui, malheureusement, aujourd'hui, pose problème parce que hier, ils ont coupé l'entraînement donc après le 3. Une décision discutable. On avait le temps de faire les choses un peu plus tard. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas profité des coureurs pour voir comment ça pouvait passer différemment sur notamment une bosse. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé coincé à cause de ça et on espère que demain, ça va passer.
Tu viens de dire qu'ils auraient pu faire les choses plus tard, c'est-à-dire qu'ils auraient pu s'entraîner plus tard. Pourquoi ne pas le faire, surtout, tu l'as dit, dans des conditions actuelles où la piste est complètement une inconnue pour tous les descendeurs?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y avait surtout la sécu. Sur la bosse, Maillot, on l'a vu, il a vraiment failli partir à la faute. Après, ils auraient pu faire différemment. Une fois qu'il y avait du grand vent, ils auraient pu mettre un drapeau sur le bord de la piste et dire à cet endroit, vous vous relevez, on skie tranquillement et vous reskiez le bas de la piste à fond. Ça aurait au moins pu permettre de skier le haut et le bas à fond pour les athlètes. Ils ne l'ont pas fait. C'est vraiment dommage parce que ça fausse un peu ça va fausser un petit peu la course parce que forcément, Kiel 2 qui a pu faire une manche à fond, c'est vraiment un avantage pour ses repères à lui, pour ses repères avec le matériel, ainsi de suite, ça avantage pas mal, quoi. Et ils ne l'ont pas fait, je ne l'explique pas. C'était une décision qui était très rapide et visiblement, hier soir, au Captain Meeting, c'était très, très tendu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, la décision, elle est obligée d'être très claire et ils prennent beaucoup de marge, on va dire.
Alors, ils ont quand même repoussé à deux reprises le départ pour finalement annuler. Tout ça engendre, j'imagine, beaucoup de stress, d'attente. Comment est-ce que, quand on est un descendeur, on gère ça? Surtout qu'on sait que là-bas, il fait très, très, très froid.
Alors, on y est habitué à ça. C'est le quotidien du descendeur d'attendre au départ, soit parce qu'il ne fait pas beau, soit parce qu'il y a eu un gros crash, pour plein de raisons différentes. Alors après, le plus dur, ce n'est pas le froid parce que là, ils ont forcément attendu dans un bâtiment. Ils n'ont jamais attendu vraiment en haut au départ dans la neige. Donc, c'est plus de gérer son influx et pas perdre d'énergie avec le téléphone ou à s'énerver parce que les décisions sont discutables ou tout ce qu'on veut. Il faut vraiment rester dans sa bulle et rester calme.
Et à quel moment on commence à sentir que ça ne va pas être bon, que ça ne va pas courir ?
Il n'y a pas vraiment de bon moment pour le sentir, c'est une question de feeling. Après, on s'entraîne et on nous pousse toujours à faire comme si la décision qu'il venait de prendre, c'est celle qui va avoir lieu. C'est-à-dire, départ à 11h, on part à 11h, non, départ midi, ce sera départ midi. Et à chaque fois, il faut recommencer la routine d'échauffement si on part devant et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est ça qui peut coûter de l'énergie.
Et est-ce que ça discute entre skieurs ou est-ce que ça échange des regards ou est-ce que chacun reste dans sa bulle et vraiment s'isole complètement?
Entre Français, on échange toujours, on parle, on rigole. Ça ne sert à rien de se mettre dans sa bulle et de se concentrer comme un fou alors qu'on a au moins une heure de marche devant nous à chaque fois qu'il y a une décision. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre une décision 10 minutes avant le départ. Il y a forcément un délai. Donc là, il y avait une heure pour les Jeux. Donc une heure, ça laisse le temps de rentrer dans sa bulle. Donc, ça échange pas mal, même avec les étrangers. S'il y a des discussions, s'il y a des discussions, des trucs discutables sur les décisions de la FIS, des fois, ça échange.
Et quel est le poids votre poids, vous, des skieurs, dans ce genre de décision ? Est-ce qu'il y a vous êtes consulté d'une manière ou d'une autre, ou pas du tout, et vous subissez de A à Z le processus ?
Généralement, on subit de A à Z. On est plutôt. On n'est jamais consulté, sauf vraiment dès qu'il y a gros problème. Là, souvent, les athlètes ont dit stop, mais c'est arrivé récemment. C'est arrivé une seule fois l'an dernier à Salbar. Ils ont envoyé les 10 premiers, c'était catastrophique. Même Paris, qui était en tête, il a levé les bras, il a dit mais arrêtez, c'est ridicule. Et par contre, là-dessus, les athlètes, on a aucun pouvoir à prendre, à part de ne pas aller au départ. Mais faut être sûr de son coup, quoi. Faut ouais. être sûr que derrière, ça suit le mouvement, sinon on perd une course, quoi.
Surtout au jeu, c'est compliqué.
C'est compliqué.
J'ai une question. Alors, c'est sûrement difficile parce que toutes les pistes ne se ressemblent pas et celle-ci, comme on l'a dit, elle est unique en son genre et nouvelle. À partir de quand les conditions sont acceptables au niveau du vent ? On a vu que ça soufflait à 60 km/h. Alors, le ressenti du froid, c'est autour de moins 28, quelque chose comme ça. À quel moment on peut se dire, est-ce qu'il y a une limite de vent où on se dit, bon, voilà, on peut y aller ? Ou c'est vraiment très différent selon les pistes ?
Alors, c'est vraiment très différent de toutes les pistes parce qu'une piste qui va être sans saut et sans difficulté majeure, le vent, à part d'être inéquitable pour la course, il ne gêne pas pour la sécurité en soi, dans la limite du raisonnable. Hein, après, s'il y a 100 km/h de vent, ce n'est pas possible de skier, quoi. Mais après, là, il y a un jury. Donc, il y a un jury par secteur tout au long de la piste qui est disposé, donc qui est ni du pays organisateur, ni affilié à quoi que ce soit. Et donc, Marcus Wallner, qui est le directeur du circuit masculin, il doit consulter chaque jury. Et on l'a entendu ce matin à la télé demander secteur par secteur, c'est bon. Et à chaque fois, ça répondait non. Donc, c'est qu'il y avait au moins 2 postes ou 3 postes où ça coinçait sur cette piste.
Alors désormais, les skieurs sont en attente pour demain. La descente est prévue lundi à 12h. Comment est-ce qu'on organise sa journée quand c'est comme ça ? J'imagine beaucoup de récup pour arriver à se tourner sur le lendemain.
Complètement récup, voire même séance des fois pour certains un petit peu plus intense, pour remettre du jus, pour faire bouger. Il ne faut pas s'endormir, quoi. Ça ne sert à rien de s'économiser à tout prix. Il faut juste rester dans le rythme qu'on a déterminé pour les Jeux. Pour gérer toutes les épreuves. Et ils vont faire leur petit sport, ils vont faire une partie de cartes, le kiné, refaire un peu de vidéo pour certains, revoir les points clés. Et voilà, pas plus de stress que ça cet après-midi.
Sur la piste, Valentin, donc c'est une piste que personne ne connaissait. Là, il y a eu un entraînement qui a été supprimé. Donc, ça va être un petit peu particulier quand même cette descente olympique. Les premiers échos, je crois que c'est Johan Claret qui avait dit que c'était une piste qui pouvait convenir à beaucoup de monde. Est-ce que ça veut dire qu'elle est assez neutre en termes de difficulté et est-ce que ça peut niveler les valeurs et donner peut-être une grosse surprise demain ? Quels sont les échos que toi que tu as pu avoir, notamment des membres de l'équipe de France et ton regard sur cette piste ?
Mon regard, moi, il est bon, c'est-à-dire que c'est une belle piste, ils ont respecté à peu près le terrain naturel, ils ont fait en sorte de l'utiliser sur les mouvements de terrain, sur les dévers. On l'a vu en bas, il y a un petit canyon qui fait 5 mètres de large. Enfin, voilà, ils ont essayé de donner un peu de charme à cette piste. Et les coureurs, ils sont sensibles. C'est une piste où ils se font extrêmement plaisir, ils prennent du plaisir à skier. Il y a une grosse vitesse moyenne, on l'a vu Kildé, du coup, qui a fait vraiment l'entraînement à fond. 111 de moyenne, c'est une des plus vites de l'hiver, quoi.
Ce serait le record d'ailleurs pour une descente olympique. Ce serait plus rapide que celle d'Antoine Denneria à Turin, qui est le record de vitesse sur une descente olympique.
Ah ouais, largement. 111, c'est très vite en vitesse moyenne. Après, il y a des grosses pointes, hein, mais en vitesse de déplacement, c'est pour ça que ça fait qu'une 40. C'est parce que tout le long, on est à fond, donc on arrive vite en bas. Mais les coureurs, ils prennent du plaisir. Et par contre, le fait que ce soit à grande vitesse, qu'il n'y ait pas de difficultés majeures, de gros sauts, de gros virages et tout ça, c'est vrai que ça nivelle un petit peu les écarts que l'engagement peut faire. Et du coup, ça va être une course à la course parfaite, ouais. Tout simplement, parce que les écarts vont être très faibles, donc la moindre erreur sera fatale.
Les centièmes vont valoir très cher.
Ça veut dire que là, tu es en train de nous donner un peu du baume au cœur. Les Français ont toutes leurs chances, si tu dis que ça nivelle. Les favoris... ne seront pas forcément les premiers en bas, et même si les Français font parfois partie des favoris, on pense à Yoclaré, à Kitzbühel, mais il y a quelque chose à faire.
De toute façon, il y a toujours quelque chose à faire. Au jeu, il y en a toujours des surprises, surtout sur une piste que personne ne connaît et dans des conditions de vent. Donc, ça fait beaucoup de facteurs. Il va falloir rester devant la télé jusqu'au dernier moment parce que les Français, ils peuvent faire des gros coups. Il y a les Canadiens. Les Canadiens, ils ont des jeunes qui ont peur de rien, qui doutent de rien. Ils partent derrière en pleine confiance. Il ne faut vraiment pas leur laisser une carte parce que sinon, eux, ils vont la prendre. Donc, ça va être une course vraiment... une belle course olympique pour moi en soi. Parce que tout le monde a sa chance et ça va être la course d'un jour.
À suivre à partir de 5h, lundi, sur les antennes d'Eurosport. On passe au chiffre du jour qui concerne aussi la descente masculine. Maxime.
Oui, la descente masculine qui aura a priori lieu lundi. Et Johan Claret, qui vous le savez, vous vous souvenez, a fait podium à Kitzbühel. Il est devenu le plus âgé à être sur un podium en Coupe du Monde à 40 ans. Eh bien, il va viser un autre record, évidemment la médaille, mais un record qu'il battrait à pleine couture, puisque à 41 ans et 29 jours, il pourrait devenir le médaillé olympique le plus vieux de l'histoire des Jeux en ski alpin. Et le record, il appartient à Bode Miller, qui avait 36 ans en 2014, quand il avait décroché le bronze sur le Super G. Donc, ce serait un record en plus battu vraiment à plate couture, puisqu'il y aurait 5 ans d'écart. Ça dit un peu aussi la difficulté de la tâche et l'exploit aussi qu'il a fait à Kitzbühel lors de la descente.
Ouais, c'est vrai que la descente, c'est un sport d'expérience. De tous les autres sports alpins, de tous les autres disciplines alpines, c'est vrai que c'est plutôt là où on voit les vieux briscards tirer leur épingle du jeu. Mais ça dit aussi une belle évolution sur la préparation physique, sur la préparation mentale et sur le changement de mentalité. On va rester un petit peu dans le cerveau, mais sur le changement de mentalité, où on voit de plus en plus quand même d'athlètes âgés, des athlètes femmes qui sont mamans. On en voit de plus en plus et ça brise un peu des idées reçues, des tabous, et c'est très très bien, moi je trouve. Si sa trajectoire c'est de skier jusqu'à 45 ans, et ben ma foi, c'est tout le mal que je lui souhaite.
Et Ophélie, toi, alors, on donne jamais l'âge d'une dame, hein, mais ouais, toi aussi tu as continué ta carrière très longtemps, tu as une impressionnante longévité. Quand on arrive comme ça, on va dire à la quarantaine, un peu comme Johan Claret ou comme toi tu as pu connaître, qu'est-ce qui est le plus dur justement? C'est l'aspect psychologique ou l'aspect physique dans la prépa et dans le fait de parvenir à se refixer des objectifs, par exemple?
Je crois que quand tu es encore en carrière à 40 ans, tes objectifs, tu vois, c'est pas que avoir une médaille, parce que la plupart du temps, tu l'as eu, cette médaille. Donc, si tu as encore la foi, l'envie et l'énergie pour continuer, c'est que tes objectifs sont un peu plus lointains et profonds que ça. Ensuite, tu mets le doigt dessus quand même, le corps évolue. Il faut adapter en fait les entraînements, les temps de récupération, tout cet environnement physique. Et je dois t'avouer que des programmes de prep physique pour Quadra, il n'y en a pas des masses. Mmh. Donc, on est un peu des précurseurs, tu vois, on est un peu des pionniers. Et du coup, on fait un peu du à la carte, mais c'est hyper intéressant parce qu'il faut à la fois s'écouter, mais en même temps, pas trop, hein, pas tomber dans... Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Donc, en fait, c'est une relation assez sympa avec les prep physiques. Moi, je sais que j'avais besoin de diversifier ma préparation, sinon je m'ennuyais. Donc, ça m'a fait aller dans des directions différentes, intéressantes. J'ai découvert beaucoup d'autres moyens de s'entraîner. Moi, je trouve que parfois, enfin, c'est une force, une faiblesse, mais aussi une force. Mais l'avantage quand tu es vieux, c'est que tu peux vachement t'inspirer de la naïveté. De la fraîcheur de la jeunesse. Je te jure, ça fait un peu vampire dit comme ça, mais je te promets que tu les vois arriver plein de candeur et tu dis « Ah ouais, c'est ça qui est bien ». Et justement, comme tu es âgé, tu as le recul pour aller saisir ce dernier petit truc des fois qui s'étiole au fil des ans. Et y a beaucoup d'échanges intergénérationnels et c'est vraiment, vraiment cool à vivre.
C'est pareil dans le journalisme.
Vous inspire, c'est ça? Ma candeur vous inspire?
Non, on a dit les jeunes.
Ouais, il n'y a pas de jeunes ici.
Super, on va se pencher désormais sur le slalom géant, si vous le voulez bien, avec l'entrée en lice lundi de Tessa Worley. Double dose de ski ce lundi, puisque la descente est prévue à 5h, mais auparavant, nous aurons la première manche du slalom géant à 2h30, la deuxième est prévue à 7h30, et de belles chances de médaille avec Tessa Worley, double championne du monde de géant 2013-2017, mais qui n'a jamais décroché de médaille olympique. Avec son bon début de saison, on est en droit d'y croire fortement. Valentin, est-ce que tu vois Tessa enfin nous rapporter cette petite médaille ?
Moi, je la vois et j'espère vraiment, parce que Tessa, elle a tout gagné dans sa carrière. Il lui manque juste une médaille au jeu. Donc, on l'espère vraiment. Elle fait une saison incroyable. Elle a fait 3 podiums. En Super G, elle en était encore pas loin. Donc, c'est vrai qu'elle a vraiment une belle carte à jouer sur le géant. Après, forcément, c'est encore une fois la course d'un jour. Et il faut qu'elle réussisse à le faire. Elle a fait 2 fois aux mondiaux. Elle connaît tout. Elle a une expérience folle. Il n'y a pas de souci. Elle va être dans le match.
Moi, ce que j'aime avec Tessa Worley, là, c'est son approche des jeux. Voilà. Elle est porte-drapeau. Donc, on l'a vu à la cérémonie d'ouverture. On sait des fois que ça peut être un poids, le drapeau. On l'avait vu en 2008 avec Tony Estanguet au jeu d'été. Mais elle l'a dit, j'ai 32 ans, ma carrière est faite, maintenant c'est le bonus. Ça pourrait être ses 4e jeu, parce qu'elle en a manqué à Sochi sur rupture des ligaments croisés. En 2010, elle arrive, elle est jeune, ça ne se passe pas bien, alors que c'était très prometteur. En 2014, elle est blessée. En 2018, on se dit, là, ça doit être la bonne. Pareil, là, elle dit, j'étais trop resté sur sportif. Là, je trouve qu'elle a une approche très libérée et on sent que évidemment elle a les armes pour réussir, mais en plus l'état d'esprit, alors ça ne dit pas, ça ne laisse pas présager du résultat final, mais au moins dans la tête on sent qu'elle est là et qu'elle ne se met pas une pression particulière, donc c'est peut-être pour cette fois la bonne.
Laurent, tu la vois comment toi Tessa ? Tu la sens, j'ai envie de dire c'est presque comme au biathlon, on sent que les Français ils vont rapporter des médailles, là j'ai le sentiment que elle va rapporter la médaille.
Oula,
Il faut avancer un peu peut-être.
Non, mais c'est l'optimisme
quand même. Elle a une confiance. Il y a quelque chose qui semble certain chez elle peut-être.
Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux types de candidats au podium quand on arrive au jeu. Il y a ceux qui, par exemple, vont avoir fait un ou deux très gros coups dans la saison, dans l'hiver, et donc dont on sait qu'ils sont capables de les faire. Et puis il y a ceux qui sont d'une constance absolue. Et Tessa Worley, elle est vraiment dans cette catégorie. Cette année, je crois que son plus mauvais résultat, c'était une 8e place sur le premier géant de l'année. Après, elle a fait 5e, après, elle a fait 4e, et sur les 3 derniers géants avant les Jeux, elle fait 3 podiums. Elle fait première, deuxième et troisième. Donc, elle est vraiment, fait partie de ces filles qui sont là à chaque course. Alors maintenant, effectivement, en Coupe du Monde, vous faites 4 ou 5, c'est une très bonne course. Parfois, vous êtes à une poignée de centièmes de la 3e place. En Coupe du Monde, on dit que ce n'est pas trop grave, c'est des gros points, puis tu as fait une bonne course. Au jeu, le problème, c'est toujours la même chose. On le sait, c'est que si tu es 4e à 3 centièmes du podium, ben, ce n'est pas une mauvaise course, mais c'est un mauvais résultat dans l'absolu, parce qu'au jeu, voilà, c'est la loi, c'est les 3 premiers, ou presque rien, j'ai envie de dire, et ça, ils en sont tous conscients. Mais en tout cas, je ne vois pas Tessa Worley passer au travers parce qu'elle a l'expérience, qu'on sait qu'elle est capable, dans les courses d'un jour, des grands rendez-vous, au championnat du monde, on l'a vu, d'être au top. Donc, il y a tout pour être confiant pour Tessa Worley. Sa forme, sa saison, sa prépa, son vécu. Mais ça reste... Et puis, il y a une telle concurrence sur le géant. C'est vraiment... elles sont peut-être 5-6 à vraiment un très très haut niveau et toutes peuvent gagner. Il y a eu beaucoup de gagnantes différentes, donc on verra, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une très très grande chance de médaille pour le ski alpin français. Et ce que je disais au début, voilà, si on prend quelqu'un comme Clément Noël qui a vraiment fait un super début de saison, qui paraissait intouchable sur la première course et même sur la deuxième jusqu'au dernier piquet. Après, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Tessa Worley, c'est vraiment linéaire et à un très très haut niveau. Donc, c'est ça qui donne quand même de gros espoirs.
Tu ressens ça aussi, toi, Valentin, cette linéarité, cette constance chez Tessa qui peut l'aider à aller décrocher cette breloque ?
Bien sûr qu'elle est ultra régulière et même sur toutes les saisons. Ça fait 3 ans, 4 ans que Tessa, elle fait des saisons avec 3-4 podiums dans la saison. Donc, c'est vraiment une grosse chance de médaille. Et moi aussi, je le ressens un peu comme Maxime. C'est que Tessa, elle a fait sa carrière, elle n'a plus rien à prouver à personne. Les porte-drapeaux, c'est la meilleure des récompenses pour sa carrière. Et le bonus, ce serait la médaille, mais s'il n'y en a pas, ça ne changera rien pour elle. Donc, pour moi, c'est la meilleure façon d'être décontracté et juste de se lâcher, se faire plaisir sur les épreuves.
Ça ne changera rien pour elle, mais quand même, ça changera beaucoup pour nous, parce qu'une médaille de plus ou de moins pour la France, ce n'est pas tout à fait pareil.
C'est ouais, pas pareil.
Si elle peut être championne olympique demain, je pense que ça changera pas mal pour elle aussi.
Ouais, quand même.
En tout cas, la première manche est à suivre à 2h30. Hein. C'est très tôt. Réglez bien vos réveils. La deuxième à 7h30. On sera fidèle au rendez-vous sur Eurosport.
Levez-vous tôt ou couchez-vous tard.
Ouais, très tôt ou très tard, ça dépend à l'heure où on se couche.
Exactement. Une nuit complète de ski alpin. Et ça, on n'a pas envie de louper ça. L'heure olympique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les différentes plateformes. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se retrouve demain avec de nouvelles médailles, on l'espère. Allez, salut.
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 Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.